Voilà. Je crois qu'au travers des chants, déjà, nous avons, j'espère que vous avez déjà reçu quelque chose de la part du Seigneur. Oui. En tout cas, j'espère que vous ne repartirez pas de la même manière dont vous êtes venu, surtout si vous avez des soucis, des difficultés. Surtout, ne repartez pas pareil, dans le même état. Surtout pas. Je ne sais pas s'il vous arrive d'être découragé. Moi, oui. Alors, souvent, on pense que celui qui est derrière le pupitre, derrière le micro, lui, il est au-dessus de tout. Il n'y arrive jamais rien. Tout semble baigné dans l'huile, comme on dit. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Par exemple, ces derniers temps, nous avons appris plusieurs nouvelles tristes, dont deux décès d'amis et puis des maladies graves dans notre famille. Et puis, la crise sanitaire qui s'éternise. La situation géopolitique en Europe et de par le monde. La menace d'une troisième guerre mondiale. Et maintenant, l'annonce d'une famine à cause de la sécheresse et de la guerre en Ukraine. Et on peut se demander, mais qu'est-ce qui peut encore arriver qui soit pire? D'abord, voyons les diverses raisons pour lesquelles nous pouvons être découragés. Et chacun de nous a certainement connu cette expérience. Il y a les découragements d'un moment qui peuvent être dus à la fatigue ou à une expérience difficile et la vie est faite d'une certaine alternance comme cela. Il y en a d'autres qui durent plus longtemps, qui doivent être même soignés, accompagnés et on parlera alors de dépression. Parce que nous ne sommes pas tous égaux dans ces problèmes. Je pense notamment à un certain personnage biblique, Élie. Ces moments de dépression ne l'ont pas empêché d'avoir un ministère efficace. Puis une autre raison de découragement, que je qualifierais de classique, est la prise de conscience, plus ou moins aiguë, de la distance qu'il y a entre la vie dont nous entendons parler dans l'Église ou dans le texte biblique, est la réalité que nous constatons en nous et souvent dans la communauté. Alors, il peut s'agir de notre vie intérieure qui nous semble désespérément pauvre et sèche. Alors, on peut voir là un véritable découragement spirituel qui nous poussera au mieux à aller chercher ailleurs ou au pire, à tout abandonner. Il y a maintenant 5 semaines que Pâques est passée. Et puis dans 4 jours, l'Ascension, Jésus partira. Alors, moi, j'aime bien me situer, j'aime bien rechercher la chronologie des événements. Bon, c'est peut-être mon côté technicien qui ressort parfois. J'aime bien classer les choses dans l'ordre. Et là, je me souviens que nous sommes à 5 semaines, était Pâques. Et puis dans 4 jours, nous penserons que c'est Pâques, et puis quelques jours après, Pentecôte. Vous voyez, c'est comme ça. Comme Jésus ressuscité le leur avait dit, par l'intermédiaire des femmes, les disciples sont retournés dans leur Galilée natale. Pour quoi faire? Pour pleurer? Se lamenter? Se replier sur eux-mêmes? Vont-ils à la pêche par envie, par passion ou par dépit? Bien, j'ai le sentiment qu'en lisant le récit, ce n'est pas la grande forme parmi les disciples. Comme on dit, ils ont plutôt le moral dans les chaussettes. Vous connaissez cette expression. Ennui, découragement, fatigue, désespoir, sorte de vide, etc. C'est peut-être l'habitude du métier, de pêcheur qui reprend le dessus. Après tout, il faut bien vivre, puis il y a la famille, faut remplir le frigo. Enfin, même si à l'époque, ça n'existait pas, mais quand même, vous connaissez l'expression. L'habitude, la monotonie, mais. Lisons le récit dans l'évangile de Jean au chapitre 21, versets 1 à 14. Oh, c'est un récit que nous connaissons certainement. Évangile de Jean, chapitre 21, versets 1 à 14. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit « Je vais pêcher ». Ils lui dirent « Nous allons aussi avec toi ». Ils sortirent et montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur !» Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car il n'était éloigné de terre que d'environ 200 coudées, c'est-à-dire 90 mètres environ. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'il y en ait tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, « Venez, mangez. » Et aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu ?» sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et le leur en donna. Il fit de même du poisson. C'était la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. C'est alors qu'intervient ce formidable message d'encouragement pour ses disciples. Jésus leur apparaît. Et il est dit que c'est la troisième fois depuis la résurrection. Comme je l'ai dit, nous sommes à 5 semaines après Pâques, enfin de cette année 2022. L'habitude est-elle aussi revenue chez vous depuis Pâques? Le train-train quotidien, notre routine, avec nos activités, parfois épuisantes, tout ça est revenu. Quand je relis le verset 4, le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Et Jésus s'est approché d'eux, il est proche, il les attend, il intervient dans leur habitude. Après la nuit où ils ont repris leur habitude de pêcheur, Jésus se tient là devant eux après avoir passé toute une nuit de travail où ils n'ont rien pris. Ils venaient de reprendre ce qu'ils savaient faire, c'est-à-dire la pêche. Et là, au bout de la nuit et de leur dur travail, rien, les filets sont vides. Ils allaient rentrer à la maison, les mains vides. Jésus est présent devant eux. Il va remplir leur journée, justement après une nuit d'efforts pour rien. Jésus intervient. Il apparaît à ses disciples au moment même où un autre découragement surgit, c'est-à-dire celui de n'avoir rien pris. Et par sa présence, Jésus va remplir leur espace, espace extérieur et intérieur. Chose étrange, les disciples ne le reconnaissent pas. Jésus ne semble pas offensé pour autant. Oh, c'est pas grave. Parce que dans sa bonté et dans sa bienveillance, Jésus va leur donner de le reconnaître. Oh, il aurait pu dire, « Hé les amis, mais c'est moi Jésus !» Je suis ressuscité, souvenez-vous, je vous ai déjà apparu plusieurs fois. Non, il ne dit rien, pas un mot. Il va simplement se contenter de faire des actes, de poser des actes. Et il le fait déjà en commençant par donner un ordre au verset 6. Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez un ordre qui ressemble étrangement à celui donné 3 ans auparavant quand Jésus avait dit à Pierre, peut-être au même endroit, de jeter son filet à droite de la barque. J'observe quand même que Jésus est un fin pédagogue. Il répète et fait répéter les mêmes gestes à ses disciples pour qu'ils comprennent, pour qu'ils saisissent qui il est et surtout qu'il est bien là, que c'est bien lui. Une fois que le miracle se produit, les disciples reconnaissent, c'est le Seigneur. Je rappelle que nous sommes quelques jours où Jésus, le ressuscité, va quitter la terre. Et là, il continue d'accomplir des gestes semblables à ceux d'autrefois. Un repas, du pain, et Jésus prend le pain et le leur donne, et au verset 13, aussi du poisson. En fait, c'est le rappel de la multiplication des pains et du rassasiement de la foule. Je m'interroge. Est-ce que nous ne ressemblons pas parfois, moi le premier, à ces disciples qui ont la crampe noire difficile, pour ne pas dire bouchée, ce qui veut dire qu'ils ne comprennent pas les disciples. Ils captent rien, ils saisissent rien. Dans un sens, ils sont prêts à vivre des choses extraordinaires avec Jésus. Et ils l'ont fait, ils l'ont vécu. Et d'un autre, ils tombent dans le découragement facilement. Nous aussi, nous retournons à nos habitudes. On retourne et assez facilement aussi, il faut le dire. Et c'est là que notre ressemblance avec eux est peut-être la plus marquée. Nous aussi, nous retournons à nos habitudes quand le découragement nous gagne. À moins que ce soit parce que le découragement nous envahit que nous retournons à nos habitudes. Nos déceptions reprennent le dessus parce que nos attentes ne sont pas comblées. Combien sommes-nous à avoir prié le Seigneur et on attend toujours une réponse, on attend toujours la solution? Deuxièmement, voyons l'encouragement dans l'abattement, la présence même du Seigneur. Jésus est là sur la plage. Pour nous, lorsque le découragement nous gagne, c'est à ce moment-là que Jésus veut intervenir précisément dans nos vies. Il est à nos côtés, mais souvent nous ne le reconnaissons pas. Pourquoi ? Parce que nous sommes tellement concentrés sur ce qui nous préoccupe, sur ce qui nous fatigue, sur ce qui nous turlupine dans la tête, qu'on ne pense même pas au Seigneur, que le Seigneur pourrait être là pour nous aider. Non, mais rassurez-vous, moi je suis aussi comme ça. Et puis enfin, quand la tempête semble se calmer, Seigneur, je fais monter une prière, j'envoie un SMS ou je ne sais pas quoi, vous savez, les trucs gratuits comme ça, rapides comme ça. Puis d'un seul coup, on sent quelque chose qui se passe. Ça ne veut pas dire qu'on a la réponse ou la solution, mais on sent que quelque chose s'est passé dans notre être intérieur. On a été entendu. Donc Jésus est là sur la plage. Pour nous, lorsque le découragement nous gagne, c'est à ce moment-là que Jésus veut intervenir dans nos vies. Il est là à nos côtés, mais souvent, nous ne le reconnaissons pas. Ah, ça serait plus facile quand même si Jésus se manifestait en personne, physiquement, qui vienne nous taper sur les épaules et s'entendre dire « Hey, mon ami, ne t'inquiète pas, tu vas voir, ça va le faire. » Souvent, j'ai rêvé de cela. Oh Seigneur, si tu pouvais être là, quand même. Oh, et même si j'avais pu être là, oh, quand tu es allé chez tes amis à Béthanie, oh, quand tu t'es reposé assis sur la margelle du puits, là, en Samarie, oh, Seigneur, si j'avais pu être là. Mais en fait, nous avons le privilège. Il est toujours avec nous. Et mieux encore, en nous. C'est lui qui nous fait avancer sur le chemin de la foi. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux le dit avec une conviction, au chapitre 12, verset 2. Jésus est l'auteur de la foi qui mène à la perfection. Oh, ce ne sont pas nos peines, nos joies, nos faiblesses, nos réussites, nos doutes, nos succès qui nous feront avancer sur le chemin, mais la façon dont nous en sortirons avec l'aide du Seigneur. Et là, souvent, nous subissons ce que j'appelle le syndrome du yo-yo. Vous savez, une fois en bas, et puis une fois en haut, et ainsi de suite. Voilà. Ne nous a-t-il pas dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il n'a jamais vu, et il n'a jamais dit, oh, vous savez, c'est un avantage d'être là le dimanche matin, parce que c'est à ce moment-là que je suis avec vous. Non, tous les jours jusqu'à la fin du monde. Savez-vous ce qui arrive souvent à un yo-yo? C'est de rester en bas parce que la ficelle s'est emmêlée ou pire, elle s'est cassée. Alors il faut le reprendre, l'enrouler et puis repartir. Frères et sœurs, la vie chrétienne ne devrait pas être une suite de hauts et de bas. Haut, je sais, ça devrait être linéaire. Mais nous pouvons chacun faire le constat que ce n'est pas le cas. Un jour, on chemine sur les montagnes, on danse, on chante, on lève les mains, et puis quelques jours après, on est dans le fond de la vallée, en courbant les chines, n'est-ce pas? C'est pas comme ça chez vous? Moi, c'est comme ça chez moi, des fois. Ça arrive. Mais hélas, la réalité de notre vie est parfois dans ses hauts et ses bas. Et pourtant, nous avançons, ou plutôt, nous avons l'impression d'avancer. Mais cela est dû à la bonté du Seigneur qui, malgré nos instabilités, nos faiblesses, nous permet quand même d'avancer. La marche du chrétien et sa progression sont l'œuvre du Seigneur à ce Jésus ressuscité qui vient à notre rencontre. Il occupe notre espace, il remplit notre vide, il nous attend sur le rivage. Et combien de rivages existent? Les rivages de nos déceptions, de nos peurs, de nos doutes, de nos découragements, de nos fatigues. Autant de rivages qui nous font baisser les yeux et qui nous font retomber dans nos habitudes. Et puis, dans tout cela, y a-t-il des signes d'espérance? Et comme à ses disciples, à qui Jésus a donné un signe, c'est-à-dire la pêche miraculeuse, puis un deuxième, le partage du pain, il nous donne et donnera aussi des signes qui renouvellent notre espérance. Justement, je parlais que Pâques, l'Ascension, Pentecôte, c'est là que nous recevons cette promesse, le Consolateur. Jésus a même dit à ses disciples, mais il m'est avantageux que je m'en aille. Mais soyez certains, vous ne resterez pas orphelins, car je vais vous envoyer le Consolateur. Je prierai le Père et il vous enverra un autre Consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Puis de nombreux versets dans la parole nous donne de l'espérance, alors méditons-les, sans modération. Un des signes par excellence est celui de la Sainte Cène, que nous célébrons régulièrement. Le partage de ce repas a rappelé aux disciples ce qu'ils avaient déjà vécu avec Jésus. Il semble peut-être, pour nous, habituel, parce que nous y participons tellement de fois, et il nous appartient de renouveler notre compréhension de ce que représente réellement la Sainte Cène. C'est le signe par excellence que le Seigneur nous a donné pour que nous saisissions ce qu'il a fait pour chacun de nous, sans exception. Par le pain et la coupe, Dieu a fait une alliance avec nous en Jésus-Christ. Une alliance n'est pas un acte à prendre à la légère. D'ailleurs, pour ceux qui sont jeunes mariés, une alliance, je le répète, n'est pas un acte à prendre à la légère. Oui ? Bon. Non, il est riche de sens. Il nous engage si nous l'acceptons, parce que Dieu en Jésus-Christ s'est engagé pour nous. C'est à la fois un signe de ce que Dieu a fait pour nous et un signe d'espérance parce que nous sommes sous le bénéfice de l'alliance de Dieu pour toujours. Chaque jour, nous sommes invités à marcher dans cette alliance au quotidien, dans nos petites et grandes activités. Jésus ressuscité est présent et il nous accompagne. Je reviens à ce verset 4. Jésus se tient sur le rivage. Et j'ai dit plus haut, tout ce que ce rivage peut représenter symboliquement. Pour les disciples, c'est le bord de leur ancienne habitude professionnelle, mais aussi leur découragement, leur espoir, leur rêve, leur ambition anéantie. Pensez donc, 3 années passées auprès de Jésus, puis c'est la tragédie, l'arrestation, la condamnation, la crucifixion. Et certains se sont dit, tout ça pour ça. Puis, reprenant le métier de pêcheur, rien dans les filets, décidément plus rien ne va. Et Jésus se tient là au bord de leur découragement, des paroles d'encouragement pour les autres aussi. Au verset 7, un disciple dit « C'est le Seigneur !» Mais il s'est mis à crier dans la barque. Et cela a produit une onde de choc dans cette barque. « C'est le Seigneur !» Mes amis, alors qu'ils avaient les chaussettes dans les talons, ça a provoqué chez tous quelque chose. Si bien que Pierre, il a réalisé qu'il était à poil et voilà, il met son vêtement, il se met à sauter dans l'eau. Et puis les autres l'ont suivi. Mais en fait, il y en a certainement un ou deux qui ont pensé qu'il fallait quand même récupérer les poissons parce qu'il fallait penser à manger le lendemain. Mais imaginez, d'un seul coup, en une seconde, leur état d'esprit a été bouleversé. Enfin, il y en a un qui réalise, mais le gars qui est sur la plage, mais c'est Jésus. Cette parole veut nous encourager dans un autre domaine, celui des messages d'encouragement communautaire. Est-ce que nous osons dire à un frère ou une sœur « C'est le Seigneur !» dans un sens d'encouragement ? L'Église retrouvera pleinement son sens lorsqu'elle vivra toujours intensément la communion fraternelle. Prenons notre courage à deux mains pour aller dire une parole d'encouragement à une sœur, à un frère. L'Église d'aujourd'hui est appelée plus que jamais à se tenir sur le rivage, sur le bord des déceptions, des découragements des personnes désorientantes, déçues, fatiguées, qui n'en peuvent plus, qui en ont ras-le-bol. Puis troisièmement, l'encouragement. N'est-ce pas un des ministères de l'Église ? L'Église n'est pas un lieu où nous nous faisons du bien, où nous nous faisons comment frissonner les poils sur la peau entre nous chrétiens, dans un sens égoïste. Non, il est évident, et tant mieux si entre nous, nous vivons des moments agréables et que nos relations soient au beau fixe. Mais l'Église est avant tout un lieu de proclamation et de service. Oui, il faut s'entraider dans l'Église. Oui, il faut revenir à la croix aussi souvent que nécessaire pour déposer nos craintes, nos découragements, vider notre sac à dos qui est rempli de cailloux, de toutes sortes de choses. Oui, il faut rencontrer des frères et sœurs pour les encourager et nous laisser encourager, mais le but n'est pas de se faire du bien pour se faire du bien. Le but est de proclamer en parole et en acte l'Évangile qui sauve, qui guérit et qui libère. Jésus, au travers de la pêche miraculeuse, ne rappelait-il pas aux disciples, donc à tous également, qu'ils seraient pêcheurs d'hommes ? Nous avons tous besoin d'une parole d'encouragement dans les difficultés de la vie. Aujourd'hui, que faisons-nous ? Demain, que ferons-nous pour celles et ceux qui sont sur le bord du rivage ? Les enfants en échec scolaire, les jeunes qui ne savent pas ou plus que faire de leur vie, les parents déboussolés, les personnes âgées parfois livrées à elles-mêmes, les personnes seules, les personnes déchirées par des drames familiaux, des personnes malades, les personnes qui ont perdu leur travail et celles qui en cherchent désespérément. En fait, ceux et celles et celles qui peuvent se trouver sur un océan de découragement et de déception, où le vent de la peur souffle peut-être, où les nuages de la solitude et de l'indifférence assombrissent leur ciel, où la nuit de l'abandon se fait ressentir très fort. Où se tient l'Église ? La place de l'Église est au bout de la nuit, sur le rivage, à l'exemple de Jésus. Là où elle donnera des signes pour celui ou celle qui en a besoin. Trouve, retrouve une véritable espérance. Le Christ ressuscité est allé à la rencontre de ses disciples désorientés et leur a montré des signes d'amour où l'espérance pouvait renaître. L'Église a besoin d'une part des signes de cet amour de Dieu pour elle-même, mais aussi au-delà d'elle-même, pour être présente dans toutes les nuits de ce monde, nuits d'abandon, d'indifférence et de souffrance, afin de témoigner de l'espérance contre toute espérance par des paroles, des gestes et des actes convaincants de patience, de persévérance, de solidarité, de tendresse, d'exigence aussi, mais aussi de pardon et de paix, en un mot, d'amour. En un mot, d'amour. Je termine. Dans les siècles et les années passées, des hommes, des femmes nous ont précédés en relevant le défi. Là où se trouve l'Église, la vie devrait refleurir. Si tu vois la vie en noir et blanc, tu devrais voir la vie en couleur. Il nous appartient de relever ce même défi, simplement pour témoigner de la présence réelle de Jésus ressuscité. Bien-aimé, que le Seigneur nous aide pour réaliser cette mission, notre mission. Je vous invite à prier.